fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Sandra Millot.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Il fait quoi ? Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous accueillons Sylvie Catoire, chargée d'études pour l'équipe phare, pour formation et accompagnement avec et par la recherche en éducation à l'IFE-ENS de Lyon, et Laurent Courbon, responsable de cette même équipe, pour évoquer les enjeux de l'analyse réflexive en formation pour les formateurs. Dans le cadre des deux sessions de formation qui auront lieu les 23 et 24 mai et 3 et 4 juin prochains, ils nous expliqueront comment et pourquoi le besoin d'une formation à l'analyse réflexive a émergé, ainsi que les enjeux de sa mise en œuvre et les transformations qu'elle engendre. Puis Dominique Bucheton, professeur honoraire des universités à la Faculté d'éducation de Montpellier, décortique le mot « formation » au micro d'Eva Rouressol. Mais retrouvons d'abord Sébastien Boudin qui va nous parler art et sciences. Bonjour Sébastien. Aujourd'hui, vous nous révélez un projet passionnant qui existe depuis déjà 10 ans et qui associe les sciences et l'art. On va donc découvrir avec vous la photographie à haute vitesse qui nous permet de voir des phénomènes invisibles.
Bonjour Sandra, exactement. Saviez-vous que l'imaginaire joue un rôle crucial dans les sciences ? En fait, il permet de formuler des hypothèses avant de réaliser des expériences. Aussi, la photographie à haute vitesse, connue sous le nom de « open flash », offre la possibilité d'explorer des phénomènes imperceptibles à l'œil nu en raison de leur rapidité. Et c'est à partir de ce constat qu'est née en 2011 l'idée du projet Art et Sciences, comment photographier l'invisible, au sein du collège Colette, à Saint-Priest, dans l'Académie de Lyon. Ce projet pédagogique est initié par Wissem Moussi, professeur de technologie. Les élèves de 3e, sur l'année scolaire, vont se familiariser aux démarches scientifiques, mais aussi stimuler leur créativité en découvrant la photographie. Au cours de ce projet, l'autre objectif du professeur Wissem Moussi est de rechercher la motivation de ses élèves.
Voilà, l'idée c'était un petit peu d'apporter de l'originalité, d'apporter un petit peu de surprise, un petit peu d'interrogation, un peu de suspense comme ça. Et l'idée c'était d'aborder autrement la démarche scientifique. Donc nous, notre intérêt, il était un petit peu vraiment au départ de captiver l'élève, de le mettre en situation de travail et d'obtenir de lui en fait qu'il se prenne un peu au jeu de cette démarche scientifique. Donc vraiment le travail au départ, ça a été de comment développer, comment motiver les élèves pour qu'ils soient imaginatifs, pour ensuite, à travers toutes ces hypothèses émises et proposé par les différents groupes, synthétiser et ne garder que certaines hypothèses pour passer à la phase suivante de l'expérimentation.
Les élèves ont testé et validé les démarches scientifiques. Les protocoles sont en place. Les capteurs sonores et déclencheurs électroniques sont réglés. Les élèves s'approprient le matériel photographique. C'est le passage à la création artistique, comme l'évoque Wissem Moussi.
L'apport, le regard du professionnel d'art plastique a été limite presque indispensable, puisqu'on a réussi à finalement rentrer beaucoup plus dans le travail artistique et la technique artistique en analysant les différents plans de l'image. Par exemple, ça, c'est des choses que j'avais complètement mis de côté, moi, dans mon approche de prof de technologie. Mais finalement, l'image, quand on l'avait retravaillée, réanalysée avec l'enseignante d'art plastique, on a fait réfléchir les élèves sur cette notion de premier plan, d'arrière-plan, de mise en valeur, en fait, d'un élément. Par exemple, le fait de ne pas forcément mettre le sujet principal d'une photo au centre de l'image, mais au contraire de lui donner un peu plus de cachet en mettant un objet, sujet principal, décentré.
Comme le constate le professeur de technologie, le projet a pris une ampleur interdisciplinaire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je perçois beaucoup plus facilement les possibilités de s'appuyer sur les compétences d'un autre collègue et de faire comme ça, ça répond aussi à une problématique de temps. Donc on peut aussi, comme ça, en travaillant sur l'interdisciplinarité, demander aux collègues de traiter dans son cours une partie de ce que nous, on n'a pas le temps d'une heure et demie hebdomadaire de traiter en classe. Donc le fait de l'avoir fait sur un projet art et sciences, maintenant on le fait sur un projet, par exemple, en sciences et vie de la Terre et en technologie, sur tout ce qui est développement durable, donc tout ce qui est en lien avec la croissance des végétaux. Et depuis cette époque, on a aussi, comme on avait des choses qui étaient très graphiques, on avait pris l'habitude de publier des articles sur le site web du collège, avec des belles images qu'on voulait aussi partager. Donc on a pris cette habitude aussi de régulièrement, voilà, on fait de plus en plus de publications, et on met des images de nos travaux qui sont menés avec les élèves, et on essaie toujours de s'inscrire dans cette démarche-là, finalement, d'exposition, de partage et d'ouverture, enfin de faire sortir de la classe les travaux qui ont été menés.
Effectivement, ce projet a offert aux élèves l'occasion de découvrir des réalités physiques invisibles, de cultiver leur goût artistique et d'être aussi récompensé de 3 prix lors d'un concours international de photographie scientifique. Et cerise sur le gâteau, En 2013, le projet Art et Science a intégré la sélection française pour l'Expo Science Internationale d'Abu Dhabi.
Merci Sébastien. Vous pouvez retrouver le lien du Collège Colette de Saint-Priest sur notre site et y voir quelques photos de ces phénomènes invisibles. Il est temps de retrouver nos deux invités. Sylvie Catoire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée d'études pour l'équipe phare de l'IFE-ENS de Lyon. Phare qui signifie formation et accompagnement avec et par la recherche en éducation, dont vous, Laurent Courbon, êtes le responsable. Bonjour.
Bonjour Sandra.
Alors merci d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer avec nous l'action de formation que vous avez engagée à l'IFE autour de l'analyse réflexive en formation. La première session de formation aura lieu les 23 et 24 mai prochains autour de la démarche de problématisation. Quant à la deuxième session, sur les postures et outils d'analyse, elle se tiendra les 3 et 4 juin. Dans cette émission, nous allons ensemble revenir sur les enjeux pour les formateurs, de ce que cela implique de former à l'analyse réflexive, et aussi sur les raisons qui vous ont conduit à proposer cette formation, les objectifs que vous poursuivez, ce que vous avez pu déjà observer des effets produits et vos attentes. Mais avant cela, je vous propose d'écouter une définition de ce qui, dans cet extrait, est nommé pratique réflexive par une formatrice, dans un cadre un tout petit peu différent de celui de l'enseignement, puisqu'il s'agit des travailleurs sociaux. On écoute.
La pratique réflexive, en fait, ça consiste en un apprentissage durant les 3 années de formation des travailleurs sociaux, de passer d'une pratique qu'on dirait plutôt comme étant intuitive à une pratique réflexive qui va nécessiter pour l'étudiant différents processus. Le premier, c'est d'abord de savoir verbaliser une situation dans laquelle il est en interaction avec la personne accompagnée. Et puis le deuxième cheminement de ce processus, c'est surtout d'être dans une analyse des procédés, des conséquences des actes que l'éducateur ou l'éducatrice ou le travailleur social a posé auprès de la personne accompagnée. Et enfin, de pouvoir réajuster ses postures professionnelles suite à l'analyse qu'il a faite de cette situation.
La formatrice donne ici 3 volets à cette définition qui sont la verbalisation, puis l'analyse de l'activité pour un réajustement de la pratique par la suite. Est-ce que cela correspond peu ou prou à la manière dont l'analyse réflexive est envisagée dans la formation que vous proposez ?
Oui, effectivement, nous, la formation qu'on propose, elle s'inscrit dans un contexte d'évolution de la formation continue pour les enseignants qui vise à atteindre les objectifs qui sont évoqués. Si on rappelle un petit peu le contexte, effectivement, des rapports des inspections générales sur la formation continue des enseignants, les plans Villani-Torossian, qui pour maths et français, et des rapports sur la formation continue qui témoignent d'un besoin chez les enseignants d'avoir des formats de formation qui s'adossent davantage aux besoins, à la réalité, qui s'inscrivent sur des temporalités plus longues et qui permettent effectivement aux enseignants d'échanger sur leur situation de travail, d'avoir une meilleure articulation avec le contexte classe et la réalité des élèves. Donc je crois que ça correspond bien. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a pris en compte pour proposer ces 2 formations, 2 formateurs dans le contexte de l'IFE. Et puis prendre en compte ce que ça demande à un formateur d'accompagner un enseignant sur une temporalité plus longue, puisque les formats en constellation et les parcours en école académique de formation continue sont des formats qui désormais s'inscrivent davantage sur une quinzaine, vingtaine d'heures. Donc ça demande au formateur de nouveaux outils, de nouveaux gestes professionnels, nouvelles postures pour accompagner ces enseignants dans une analyse réflexive de leur pratique.
Donc là, vous venez de bien poser le constat qui vous ont amené à proposer cette formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle est née, en fait, Sylvie Catoire ?
Cette formation, elle est née d'une rencontre qu'on a effectuée avec Laurent lors d'un colloque avec un chercheur qui s'appelle Grégory Munoz et qui travaille pour le Centre de recherche en éducation de Nantes. Et comme tu l'as dit, Sandra, tout à l'heure, notre équipe forme avec et par la recherche. Nous avons donc commencé à travailler avec lui sur cette idée de formation. Et il nous a même accompagnés dans notre réflexion pour envisager cette formation sous l'angle de l'accrocher elle aussi à des situations de travail de formateurs et de commencer par une expérimentation d'outils conceptuels avec des formateurs de terrain, de les suivre toute une année pour ensuite travailler avec eux à une co-construction de temps de formation pour les formations qui ont lieu en fin d'année.
Alors concrètement, en termes d'outils, qu'est-ce que vous proposez comme contenu pour la formation ?
Alors, concrètement, à partir du travail qu'on mène avec le CREN, Centre de recherche en éducation de Nantes, et Grégory Munoz, qui est maître de conférence, nous proposons une boîte à outils et puis des apports conceptuels sur la réflexivité et la démarche de problématisation. Et nous, notre parti pris, c'est de prendre en compte ce que les formateurs font déjà, c'est-à-dire leur dispositif de formation, et de le re-questionner au regard d'une démarche de problématisation qui vise à mettre en lien effectivement des éléments théoriques pour re-questionner les situations de travail et envisager des pistes d'action. Par exemple, il y a des dispositifs d'analyse de la pratique, des dispositifs type co-développement qui sont connus, qui sont déjà pratiqués par les formateurs. Eh bien, on réquestionne ces dispositifs-là. On voit comment on peut prendre en compte des conceptualisations de la part des enseignants, c'est-à-dire des savoirs d'expérience qui sont déjà présents, et comment on peut les articuler avec des savoirs plus théoriques qu'apporterait le formateur pour développer ces éléments théoriques, leurs réflexions, et envisager éventuellement une transformation des situations de travail avec de nouvelles pratiques. C'est aussi comment étayer la compréhension des situations de classe et l'articuler avec des retours en formation, puisque dans le cadre de Constellation dans le premier degré, on a ce qu'on appelle des visites croisées. Et une des questions qui se pose pour le formateur, c'est de se dire finalement comment j'outille le regard des enseignants sur leurs propres pratiques, puisque des fois ils s'observent entre pairs, et comment j'organise ce retour en formation pour permettre des échanges et une analyse réflexive de leurs pratiques.
Et alors, qu'est-ce que cela implique en termes de changement de posture pour le formateur ?
C'est une question que l'on traite sur la deuxième session de formation qui a lieu début juin en présence de Dominique Bucheton et qui questionne justement la posture du formateur, cette posture qui vise à favoriser une réflexivité chez les enseignants. Une posture qui va être une posture d'accompagnement, une posture d'écoute dans laquelle il va être amené à lâcher prise pour pouvoir mettre en regard les apports de la formation et les contextes et les situations de travail des enseignants. Ce que l'on va chercher à faire dans cette formation, c'est d'outiller le formateur pour comprendre qui il est, quel formateur il est dans ces situations, qu'est-ce que cela lui demande, mais aussi lui permettre de comprendre ce que l'on entend par réflexivité chez les enseignants, qu'est-ce que la réflexivité chez les enseignants, et la voir peut-être comme un processus plus que comme un objectif à atteindre.
Laurent Courban, est-ce que vous avez déjà des retours sur les effets produits de la formation ?
Oui, alors comme c'est une formation de formateurs, on sait déjà qu'il y a des formateurs effectivement qui ont modifié leur format de formation pour des enseignants parmi ceux qu'on accompagne. Et puis aussi, il y a des formations qui commencent à se mettre en place au sein de l'École académique de formation continue de Lyon, notamment avec le CREN. Donc pour nous, c'est une forme d'essaimage qui est très valorisante parce que ça montre toute l'importance de cette question-là et la qualité de la formation que l'on propose.
Sylvie Catoire, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que ça a apporté comme plus-value sur le terrain ?
Alors, les formateurs que l'on accompagne, donc ceux sur lesquels on va s'appuyer pour après construire les temps de formation, vont mobiliser des outils de la boîte conceptuelle dont a parlé Laurent tout à l'heure, vont les utiliser et puis surtout avec notre aide et l'aide des chercheurs, vont regarder ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils vont recueillir des traces de leur activité et on va les analyser. Et il y a des moments un peu magiques dans ces temps d'analyse quand on se regarde travailler, c'est de se dire, par exemple, « Ah, mais je ne pensais pas que les enseignants avaient fait part d'autant de réflexivité. » C'est-à-dire qu'ils vont prendre conscience que la réflexivité dont on parle, que l'on recherche, elle se situe à plusieurs niveaux et que déjà, les accompagner dans la mise en mot de leur activité, c'est un élément de réflexivité. Donc, il y a toutes ces prises de conscience qu'ils ont et c'est justement à travers ces prises de conscience qu'ils ont, eux, qu'on va après articuler les temps de formation, que ce soit pour la session 1 ou la session 2, dont ils vont témoigner, dont ils vont faire un retour d'expérience auprès des stagiaires qui viennent à Lyon pour les formations. Et c'est du coup cette idée de ne pas être modélisant et d'apporter des éléments qui permettent à nos stagiaires en formation d'entrer aussi dans une démarche réflexive sur leurs pratiques.
Laurent Courban, vous souhaitez ajouter quelque chose ou...
Je crois que ce que vient dire Sylvie est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, une formation qui mobilise des retours d'expérience avec des personnes qu'on a accompagnées pendant un an prend le risque effectivement de donner des modèles que peut-être les formateurs qui viennent chez nous en formation viennent chercher et on ne s'inscrit pas du tout dans cette démarche-là. Nous, on souhaite que des personnes témoignent de leur avancée, de leur réflexion, justement, avec toutes les limites que ça comporte. le cheminement qui était le leur pour avoir un espace de réflexion collectif qui est celui de la formation à l'IFE, dans lequel on met en questionnement des outils, des apports conceptuels, des problématiques de terrain pour avancer sur des questions de formation qui restent difficiles.
Sylvie Catoire ?
Je tiens à remercier les formateurs que l'on suit et qui travaillent avec nous depuis 2 ans sur ce projet d'expérimentation et qui sauront se reconnaître.
Et on remercie aussi Alexandra Bourrel, qui est donc la 3e personne qui va proposer cette formation avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions et on souhaite bonne chance à vous et à tous les formateurs. Je vous propose d'écouter Dominique Bucheton, professeur honoraire des universités à la Faculté d'éducation de Montpellier, au micro d'Eva Rouy-Ressol pour la chronique Un mot, un chercheur autour du mot formation.
Formation, apprentissage intellectuel ou moral, éducation. Exemple, la formation du goût, synonyme, apprentissage, éducation.
Et la question est posée, c'est quel genre de ressources, de savoir faut-il donner faire acquérir à nos étudiants, à nos stagiaires, à nos candidats. Le développement, il est dans ce processus d'incorporation des savoirs savants développés, je vais y revenir tout à l'heure si vous voulez, et en même temps de l'expérience qu'on a vécue. Mais une des conditions de ce développement par l'expérience, par le croisement de l'expérience et de savoirs, je veux dire, plus classiques, plus connus, plus enregistrés, c'est effectivement qu'il faut déjà que le sujet se l'approprie, décide d'apprendre, décide de construire quelque chose de nouveau. Cette idée d'un apprentissage avec, j'allais dire, la totalité de l'individu dans ses capacités de développement est probablement, de mon point de vue, sous-estimée. On vient de supprimer l'enseignement de la technologie en primaire et en sixième. C'est vraiment extrêmement dommage. Parce qu'en faisant de l'enseignement de la technologie aux enfants, on allait à des formes d'apprentissage et par le technique, le manuel, le dessin, l'imaginaire, et par le langage, et par les mots, et la manière de nommer des objets techniques, de raconter des constructions, etc. Autrement dit, là, il y a encore une réflexion probablement à approfondir.
Formation. Processus entraînant l'apparition de quelque chose qui n'existait pas auparavant. Manière dont quelque chose se forme. Exemple, la formation d'une équipe. Synonyme, constitution, création, élaboration, genèse.
C'est que la formation, c'est un processus continu de découverte, effectivement. C'est un espèce de processus complexe qu'on appelle un processus de subjectivation de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire ? On apprend dans un espèce de va-et-vient entre l'expérience vécue et des savoirs que l'on va rencontrer ailleurs, en formation, dans des instituts de formation, dans des stages, etc. Et le développement professionnel, il est dans ce processus d'incorporation des savoirs savants et en même temps de l'expérience qu'on a vécue. C'est effectivement qu'il faut déjà que le sujet se l'approprie, décide d'apprendre. Décide de construire quelque chose de nouveau. Donc, c'est cette espèce de processus croisé, ce va-et-vient, qu'en formation, on appelle l'alternance. S'il y a un croisement, effectivement, entre l'analyse de ce qu'on a fait pour soi et avec les autres, et avec un formateur, et avec des savoirs que l'on a rencontrés, eh bien, oui, là, il y a un véritable processus de formation, de développement par, excusez le mot savant, subjectivation de l'expérience.
Formation, action de donner à quelqu'un, à un groupe, les connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité. Exemple, la formation des cadres. Ensemble de ces connaissances. Exemple, avoir une bonne formation technique. Synonyme, bagage, connaissance, culture, savoir.
Dans le fond, le cœur du métier enseignant, hein, c'est beaucoup plus complexe que l'apprentissage de techniques et de formes scolaires. Ces formes scolaires sont extrêmement multiples, diverses, selon les niveaux, d'ailleurs selon les pays, ça n'a rien de particulièrement spécifique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que former au cœur du métier, c'est infiniment plus complexe qu'en apparence, hein. Et l'idée qui court un peu qu'il suffirait peut-être de donner des kits de formation, des kits de forme, pour permettre aux gens d'enseigner, eh bien, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Les leçons modèles, etc., ça ne marche pas. Et donc, déjà, derrière formation, on pourrait entendre formatage. Autrement dit, j'allais dire que le métier enseignant, c'est un métier qui s'intéresse à la singularité des élèves. Et du coup, c'est un métier, j'allais dire, si je voulais le définir, et on est nombreux à le définir de cette façon, c'est former à l'ajustement. Former à l'ajustement aux élèves, ils sont très différents par leur culture, par leur histoire, par leur connaissance, par leur famille, etc., par leur envie d'apprendre d'ailleurs aussi. Et ils sont très cet ajustement, il est très différent en fonction des endroits où on se trouve. Dans le fond, former à l'ajustement, c'est peut-être la question qu'aujourd'hui devrait ou doit se poser la formation initiale et continue. C'est apprendre aux enseignants de ne pas simplement être focalisé sur les savoirs que l'on va enseigner, qu'on va développer, dérouler, prouver quelquefois, si on fait des maths, s'intéresser aux apprenants, c'est-à-dire les écouter, on va entendre les mots qu'ils utilisent, on va regarder les comportements, on va regarder s'ils décrochent, s'ils sont attentifs, si brusquement ils se réveillent, s'ils posent des questions, quel type de questions, des exemples, etc. La situation actuelle que j'observe dans les écoles et en formation m'amène à penser que la formation actuellement et la formation continue est profondément perturbée. Et cette déstabilisation, elle est explicable parce que les enseignants sont soumis, les jeunes profs, les vieux profs aussi, sont soumis à une instabilité constante de programme, de dispositifs pour organiser la classe, de dispositifs pour disposer les élèves dans les établissements, pour l'orientation, etc. Et pour finir, je dirais qu'il y a du souci dans l'air pour la formation à se faire.
C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. À la réalisation, le formateur de cette émission, Sébastien Boudin. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur la formation Analyse réflexive en formation sur le site de l'IFE, mais aussi sur le site de notre web radio Cadécole, à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr/cadécole. À très vite.